Allô.
Fréquence Terre.
Nous sommes en direct du salon Planète Durable et nous allons parler d'énergie, l'énergie autrement, c'est-à-dire peut-être sans nucléaire, c'est ce que nous allons voir. Avec nous pour en parler, donc Adrien Lepage de Marcel Green, bonjour. Et puis Patrick Bem, notre invité. Patrick Bem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc directeur d'Enercop, un fournisseur d'électricité verte. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électricité verte? Nous allons en parler tout de suite. Adrien Lepage.
Bonjour. Donc Patrick Bem, bonjour. Donc vous êtes en effet le directeur d'Enercop. Bon, nous, on se connaît un petit peu. On avait déjà eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Enercop, malheureusement je pense qu'il y en a encore, qu'est-ce que c'est exactement, comment cette entreprise fonctionne et qu'est-ce qu'elle produit ?
Enercop, c'est un fournisseur d'électricité. Vous savez que le marché de l'électricité s'est ouvert et la porte est ouverte donc au fait que vous n'êtes pas obligé désormais de rester avec votre fournisseur historique d'électricité, mais vous pouvez faire le choix d'aller vers un fournisseur d'électricité alternatif. Dans ce cadre-là, Enercop a été créé avec deux spécificités fortes. La première, c'est d'offrir une offre d'électricité 100% renouvelable. Alors 100% renouvelable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons des producteurs dans la coopérative Enercop qui sont des producteurs qui ont des moyens de production d'énergie renouvelable sur les différentes filières que sont le petit éolien, le photovoltaïque, la biomasse également et bien sûr l'hydraulique. Et Enercop a été créé avec cette première idée-là de proposer une offre unique, donc 100% renouvelable. Et la seconde idée force d'Enercop, c'est le fait d'être fournisseur d'électricité dans un mode particulier qui est le mode de la coopérative. Nous avons un statut juridique de coopérative, qui plus est de ce qui s'appelle SCIC. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc c'est véritablement un statut qui affirme la mission que nous avons à Enercop, non seulement bien sûr de fournir de l'électricité, puisque c'est notre métier de base, mais surtout notre mission de peser dans l'avenir énergétique en faveur des énergies renouvelables. C'est véritablement là notre mission forte. Et Société Coopérative d'Intérêt Collectif, ça veut dire que d'une part, vous avez un mode de gouvernance qui est un mode plus démocratique. C'est le principe de la coopérative, à savoir une personne égale une voix. Autrement dit, vous n'avez pas plus de pouvoir à Enercop si vous apportez plus d'argent que quelqu'un qui en apporte moins. Premier point. Et le second point, c'est que on a une coopérative qui regroupe donc des consommateurs, des producteurs, et la coopérative est là pour acheter aux producteurs ce qu'elle revend aux consommateurs.
Là, j'entends coopérative, petit producteur, ça rappelle un peu le commerce équitable. Il y a d'autres parallèles ?
Oui, bien sûr. Alors, je dirais plutôt, vous savez qu'il y a une mouvance qui est un petit peu vivace en France et forte, et qui se développe, qui est celle de l'économie sociale et solidaire. Je pense que là, c'est peut-être important de rappeler un petit peu quelques éléments. C'est vrai qu'on a parfois tendance à opposer deux mondes, qui est le monde du service public, on va dire, qui serait par nature vertueux, et le monde, du privé, qui serait par nature, mercantile, et qui n'aurait comme vision que de augmenter les parts de marché et faire du profit, en fait, en clair. Là, cette vision des choses a un fond de vérité. Elle cache cependant deux éléments. C'est d'abord que, malheureusement, le service public n'est pas forcément la garantie de l'intérêt collectif. Alors nous, on le juge dans le domaine de l'énergie, puisque, en fait, le choix en France très fort qui a été fait pour le nucléaire, qui nous caractérise particulièrement parmi tous les pays du monde, on va dire, était un choix qui a été fait dans le cadre vraiment d'un service public. Et on peut se poser la question si vraiment c'est vraiment l'intérêt collectif d'avoir fait ce choix. Il y a d'autres éléments également dans d'autres domaines, comme dans les transports, dans lesquels la politique du tout TGV était mise en place dans le cadre effectivement d'un service dit public. Là aussi, on peut se poser la question sur l'intérêt du service public. Donc d'une part, effectivement, le fait de relever du service public n'est pas forcément aussi vertueux que ça semble l'être. Et puis par ailleurs, de l'autre côté, donc du côté du domaine privé, il faut comprendre qu'il y a en particulier en France une frange de l'économie dite privée, mais qui n'a pas forcément les défauts que je signalais tout à l'heure, et qui se donne comme mission autre chose que simplement de faire du profit. Très clairement, c'est le domaine de l'énergie sociale et solidaire. Le mutualisme en France est une tradition assez forte. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui relèvent de ce domaine-là. Certaines très connues, comme la Massif, comme Chèque Déjeuner, d'autres peut-être un petit peu moins connues comme Enercop. Donc très clairement, le fait d'être de droit privé n'empêche pas que nous avons une vision de droit public. Et le statut de service société coopérative pendant l'intérêt collectif est justement un statut tout à fait spécifique qui s'adresse aux structures de droit privé, mais qui ont comme mission non pas de prendre des parts de marché, mais de viser l'intérêt collectif.
Alors si on s'intéresse au circuit de cette énergie, concrètement, vous achetez cette énergie à, je ne sais pas, quelqu'un qui a un panneau solaire dans son jardin ou une structure qui a des panneaux solaires sur son toit et qui vous revend cette énergie que vous injectez ensuite dans le circuit.
Absolument.
C'est comme ça que ça marche.
Voilà, absolument. Alors effectivement, nos producteurs, alors c'est le profil de nos producteurs est assez varié. Ça peut effectivement, comme vous le dites, être un particulier qui a un panneau solaire, enfin quelques panneaux solaires sur le toit de sa maison et qui à certains moments a des surplus d'énergie et à d'autres moments des manques d'énergie effectivement parce que l'ensoleillement ne suit pas forcément les besoins de consommation. Donc dans ce cas-là effectivement nous sommes là pour acheter les surplus et puis vendre aux consommateurs les manques de production, enfin les défauts de production par rapport à ces besoins de consommation en temps réel. Donc ça c'est un petit peu une extrême. Au-delà nous avons des producteurs qui sont... qui voit plutôt l'énergie renouvelable comme un complément par rapport à l'activité principale. Alors je pense en particulier à des exploitants agricoles qui profitent d'un champ qui est suffisamment bien venté pour que l'installation de petites éoliennes ait un sens, ou une grange dont le toit est suffisamment bien exposé pour qu'une installation solaire ait également un sens. Donc là, l'idée n'est pas tellement l'autoconsommation, hein, mais plutôt le fait d'avoir un complément de revenu dans le domaine de l'énergie. Par rapport à l'activité principale qui est plutôt une activité de type agricole. Et puis nous avons au-delà des producteurs dont le métier est celui de l'énergie, hein. En particulier des producteurs qui ont et gèrent des productions hydrauliques de petite taille, hein, mais pour qui ces productions sont la principale, on va dire, source de revenus, et c'est leur métier, on va dire.
Alors peut-être qu'on peut rappeler, quand on parle d'énergie verte, c'est-à-dire que vos clients vont acheter de l'énergie, mais l'énergie que vous leur donnez, l'énergie qu'ils reçoivent chez eux n'est pas forcément celle que vous-même avez achetée à ces producteurs d'énergie verte.
Alors, c'est toujours effectivement un petit peu compliqué dans le domaine de l'énergie, de l'électricité en particulier, de bien comprendre. Il y a une caractéristique principale dans l'électricité qu'on ne retrouve pas dans les autres formes d'énergie, comme le gaz, le pétrole, tout ce que vous voulez. C'est le fait que l'électricité n'est pas une forme d'énergie qui se stocke quelque part, qui se transporte en quelque sorte. L'électricité, c'est une forme d'énergie qui est instantanée, qu'il faut produire et consommer immédiatement. Par ailleurs, je parlais d'ouverture du marché de l'électricité tout à l'heure. Le marché de l'électricité, c'est, je le disais, l'ouverture à de nouveaux entrants dans le domaine de la fourniture, donc de la commercialisation de l'électricité. Pour autant, le réseau de distribution d'électricité reste unique et reste public en France. C'est un point qui est important. C'est une structure donc, qui est séparée d'EDF, au moins juridiquement aujourd'hui. Il y a même deux structures, hein, à savoir RTE pour la haute tension, on va dire, et puis ERDF pour tout ce qui est distribution, donc la basse tension. Et l'ensemble des fournisseurs passe par ce réseau de distribution. Il n'y a aucune rationalité, ni économique, ni encore moins écologique, à démultiplier les réseaux de transport d'électricité autant que de fournisseurs, bien sûr. Donc évidemment, dans ce cadre-là, si vous voulez, il faut voir le transport d'électricité comme une espèce de tuyau dans lequel l'ensemble des producteurs, qu'ils soient renouvelables, mais aussi thermiques, nucléaires, tout ce que vous voulez, injectent à un bout. Et à l'autre bout du tuyau, vous avez les consommateurs qui consomment selon leurs besoins. Et bien naturellement, vous n'avez pas des électrons verts et des électrons pas verts qui, avec une forme d'intelligence particulière, partiraient des sources d'énergie renouvelables et iraient alimenter les consommateurs d'Enercop. Donc la traçabilité en domaine d'électricité est une difficulté particulière qu'il faut bien comprendre. Nous, ce que nous garantissons à nos consommateurs est très simple, c'est que dès que, pour le besoin de leur propre consommation, ils consomment donc 1 kWh d'électricité, nous sommes tenus à l'autre bout du tuyau, en quelque sorte, à injecter 1 kWh d'électricité renouvelable. Et évidemment, plus nous serons de consommateurs nombreux à vouloir consommer de l'électricité renouvelable, plus nous devrons être de l'autre côté du tuyau nombreux à produire de l'électricité renouvelable. Et c'est ainsi qu'on essaye à terme de pouvoir véritablement infléchir la production énergétique en France avec davantage d'énergie renouvelable.
Et ça, vos clients peuvent le vérifier en temps réel ou régulièrement ?
Alors, je dirais de façon générale, c'est une contrainte qui est imposée par le réseau de distribution à tous les fournisseurs d'électricité. C'est d'équilibrer véritablement en temps réel, enfin ça se fait par tranche de demi-heure si vous voulez, donc c'est vraiment quand même du temps réel, hein. L'injection et le retrait, c'est-à-dire la consommation et la production. Et le réseau de distribution surveille ces chiffres-là, et ils sont publiés ces chiffres-là, donc on sait à tout moment, je vous le dis, demi-heure par demi-heure, où on en est entre la différence entre la production et la consommation.
Mais pour le consommateur, ça ne change rien, il ne voit pas la différence entre le type d'électricité.
Alors, ce qui est effectivement quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que, et c'est une crainte qu'on a souvent quand on veut devenir consommateur chez un fournisseur alternatif comme Enercoop, on se dit, oui, mais ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je change de compteur d'électricité. Si par hasard, vous avez des producteurs qui font défaut, est-ce que je vais encore être alimenté chez moi et tous ces problèmes-là. En fait, la situation est beaucoup plus simple que celle-là. Quand nous passons un contrat avec un consommateur, en fait, on passe deux contrats. On passe un contrat de fournisseur d'électricité pour l'énergie et on passe... entre le réseau de distribution et le consommateur, un contrat d'acheminement de son électricité. En fait, c'est un ensemble de contrats, et le consommateur ne voit qu'un seul contrat, c'est celui entre Enercoop et lui-même. Dans le partage des responsabilités par rapport à ce qu'on offre dans une offre d'électricité, le réseau est pleinement responsable de la qualité de service et la continuité de service. Donc, ce qui veut dire en clair que...
Le réseau, c'est ERDF.
C'est ERDF, bien sûr. Ce qui veut dire en clair que le consommateur, même au cas où, sait-on jamais, tous les producteurs de l'Enercoop tomberaient en rideau pour une raison technique ou un peu curieuse, c'est jamais arrivé, mais on peut l'imaginer, c'est pas pour autant qu'à l'autre bout au niveau de la prise de courant du consommateur, l'électricité n'arriverait plus.
Est-ce qu'il y a des zones géographiques où vous avez plus de petits producteurs, comme vous les appelez, que d'autres ? Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez plus de sociétaires, d'adhérents
Enercoop ? Bien sûr. Si vous voulez, on a démarré le projet Enercoop, et j'en dirai un mot plus généralement au-delà de l'aspect fourniture d'électricité. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a véritablement un projet Enercoop. On l'a démarré, ce projet, en étant fournisseur, donc au niveau national. Une des idées fortes, je pense, qui commence à s'affirmer, quand on commence à réfléchir à la stratégie énergétique, consommer vert n'a pas de sens si on consomme moins. Si on ne consomme pas moins, pardon. Donc il faut absolument moins consommer, mieux consommer et consommer vert, on va dire. Mais d'abord, moins et mieux consommer. Et vous savez peut-être que le transport d'électricité, ça coûte en électricité, puisque ça frotte dans les tuyaux, on va dire, hein, donc ça chauffe. Et ça, c'est autant d'électricité qui est perdue, et donc celle-là, il faut l'éviter.
Plus l'électricité vient de loin, et moins j'en aurai, au final, dans le tuyau.
Absolument, absolument.
Donc il vaut mieux que ce soit un producteur près de chez moi.
Voilà, et si vous voulez, la France a cette particularité d'avoir des moyens de production extrêmement concentrés, par les centrales nucléaires, hein. Et vous comprenez bien que plus vous avez des moyens de production qui sont concentrés, plus finalement vous aurez de kilomètres à parcourir entre les points de production et l'ensemble des points de consommation. Donc un élément qui nous semble fondamental, si on veut donc réfléchir à l'avenir énergétique, c'est non seulement de consommer vert, mais donc de moins consommer, et donc moins consommer veut dire moins transporter d'électricité. Et c'est là que les énergies renouvelables trouvent aussi une valeur extrêmement forte qui est, à notre sens, pas suffisamment... souligner, qui est celle que c'est par nature des moyens de production qui sont disséminés, mieux répartis, et donc qui concourent à faire que finalement les kilowattheures vont moins voyager sur le réseau, et donc on va moins gaspiller simplement d'électricité.
Moins de gâchis.
Voilà. Donc nous sommes partis effectivement, je le disais, au niveau national en utilisant le réseau ERDF. Notre ambition, bien sûr, pour viser le fait de moins consommer, c'est évidemment de se projeter au niveau régional, et d'essayer le plus possible d'avoir une égalité consommation-production au niveau régional, plutôt qu'au niveau national, comme c'est le cas aujourd'hui. Ah, c'est la raison pour laquelle nous avons créé des structures Enercoop, qui sont également des sociétés coopératives intercollectif, d'abord en Rhône-Alpes, en Champagne-Ardenne, en Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi en préparation, en Languedoc-Roussillon également, de façon à essayer d'atteindre cet objectif qu'on avait au départ au niveau national, au niveau régional. Alors après, rien n'empêche d'aller au plus près. Et puis on peut imaginer qu'au niveau même d'un lotissement, on pourrait très bien avoir cette égalité injection au trait.
Le but, c'est d'avoir des antennes au niveau local, aussi bien pour trouver des producteurs que pour trouver des consommateurs clients.
Voilà, alors je dirais, et principalement pour trouver de la production. Si vous voulez, les structures locales, ce ne sont pas des antennes, ce sont des structures juridiquement indépendantes, sous statut SCIC. Qui ont en grosso modo trois missions et qui sont assez clairement et simplement les missions qu'on a un petit peu de mal à faire depuis le niveau national, on va dire. La première mission, c'est effectivement de travailler sur des projets de production au niveau local, en liaison avec les collectivités notamment, et des projets principalement citoyens, donc à majorité citoyenne et collectivité. Première mission de ces structures régionales. Deuxième mission, c'est d'appuyer un petit peu sur l'aspect maîtrise de l'électricité. Hein, encore une fois, il ne s'agit pas d'offrir une offre verte sans offrir en même temps des moyens de moins et mieux consommer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est également plus facile de faire au niveau local que depuis un bureau national, on va dire. Hein. Et le troisième point, c'est effectivement de jouer le rôle de fournisseur au niveau local, dès lors que l'égalité production-consommation au niveau régional pourra être atteinte.
Est-ce que c'est difficile de trouver des fournisseurs
Est-ce que j'imagine que l'offre l'offre correspond à la demande aujourd'hui, mais peut-être que la demande va augmenter. Est-ce que l'offre va augmenter aussi?
Ben, écoutez, oui, on l'espère bien. Et nous avons des difficultés, mais je dirais notre modèle était construit pour, en quelque sorte. Ce qu'on cherche à démontrer, c'est que les consommateurs sont suffisamment nombreux, exigent d'une électricité verte qu'on n'a pas forcément les moyens de mettre en face. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à tout moment, on est susceptible de dire à des consommateurs qui voudraient venir chez nous, bah, écoutez, malheureusement, on ne peut pas parce qu'on n'a pas encore suffisamment de moyens de production renouvelable de l'autre côté. Donc on ne peut pas être 100% renouvelable et puis accepter tous les consommateurs qui veulent venir chez nous, indépendamment des producteurs qui viendraient chez nous. Donc je dirais, par nature, notre modèle effectivement prévoit qu'à certains moments, et c'est déjà arrivé par le passé, on disait à des consommateurs, bah, écoutez, désolé, mais il va falloir attendre un mois, il va falloir attendre deux mois, c'est-à-dire jusqu'à six mois, qu'on fasse aboutir des projets de production renouvelable, que de nouveaux producteurs rentrent dans notre périmètre de façon à pouvoir vous servir en électricité renouvelable.
Ce matin, Nicolas Milko, qui était à votre place de Planète Oui, nous disait qu'il était parfois obligé d'acheter de l'énergie renouvelable à la Suisse, à l'Allemagne. Vous faites aussi ça en cas de pic?
Oui, alors effectivement, encore une fois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, si à certains moments, on a trop d'énergie ou pas assez d'énergie, c'est le réseau de distribution lui-même qui, en fait, compense dans les deux sens par des achats et des ventes. Toujours dans l'objectif d'équilibrer le réseau. Vous savez que le réseau électrique, alors c'est un peu technique, mais ça ne supporte pas d'être suralimenté en termes de production ou surconsommé. Hein. Il faut vraiment un équilibre, sinon le réseau ne tient pas simplement physiquement.
J'entends beaucoup parler, on entend beaucoup les mots humains, citoyens, solidaires, mutualisés, etc. C'est quoi Enercop? C'est pas une vraie entreprise en fait. Est-ce que vous pouvez nous juste faire un petit bond en arrière pour nous expliquer comment ça a été créé, par qui, et quel est le but au-delà de simplement fournir de l'électricité? On a l'impression que ça va un petit peu plus loin.
Oui, bien sûr. Je le disais, Enercop, qui est aujourd'hui fournisseur d'électricité, c'est surtout et avant tout un projet. Ce projet, il était défini à partir de 2005. Pour répondre à quelle motivation et d'abord par qui, ce qui est important de bien voir. C'est issu d'une réflexion qui a réuni un certain nombre de personnes physiques et de personnes morales de différents domaines. D'une part, des mouvements citoyens, comme Greenpeace, comme vous avez un centre de Greenpeace ici, comme les Amis de la Terre, un peu plus tard Agir pour l'environnement, donc des structures citoyennes, on va dire, qui sont soucieuses et qui travaillent sur le domaine de l'environnement. Par ailleurs, les acteurs du monde des énergies renouvelables, ESPUL, qui est un spécialiste, une association qui est spécialiste dans le domaine du solaire et du photovoltaïque en particulier, et qui est reconnue au niveau non seulement français mais même européen. La Compagnie du Vent, qui est une structure, qui est la première structure à avoir raccordé une éolienne au réseau. Le Comité de liaison des énergies renouvelables. Enfin bon, voilà, j'en oublie beaucoup évidemment. L'idée de ces gens-là était de se dire à ce moment-là, le marché de l'électricité s'ouvre. Alors on peut être pour, on peut être contre, et on peut en discuter longtemps. En tout cas, on a acté le fait que... C'est un fait, voilà, le marché s'est ouvert. Alors on peut râler, mais nous, on voulait vraiment s'inscrire dans une dynamique plutôt positive de se dire, la donne étant changée, qu'est-ce qu'on peut faire de positif là-dessus? Et très rapidement, effectivement, partant d'un certain nombre de constats au niveau français qui, à l'époque, et c'est malheureusement encore le cas, qui était d'abord le retard très fort de la France en matière de développement d'énergie renouvelable, hein. Vous aviez à l'époque 40 fois moins de photovoltaïque en puissance installée au niveau français par rapport à ce qu'on peut trouver en Allemagne. À peu près la même différence au niveau de l'éolien, et ainsi de suite. Donc premier constat. Deuxième constat, le fait, et j'ai oublié de le dire, il y avait quand même dans les membres fondateurs des gens qui souhaitaient avoir une électricité renouvelable répondant à un cahier des charges assez précis et qu'on ne trouvait pas du tout sur le marché. Donc constatant qu'il y avait également peut-être des consommateurs soucieux de mieux réfléchir et d'assainir cette l'idée de consommer de l'électricité. Voilà, c'est l'ensemble des motivations qui ont conduit, dans un premier temps, à créer cette coopérative de fourniture d'électricité. Au-delà, la fourniture, je le disais, n'est qu'une étape. On a bien vu déjà qu'il y avait d'autres étapes avec la création de structures régionales. Véritablement, ce qu'on souhaite, et c'est la mission de l'Enercop telle qu'elle est définie statutairement, hein, c'est véritablement que le citoyen redevienne décisionnaire au sens fort dans l'avenir énergétique. On a en France, malheureusement, beaucoup, on va dire, au niveau des citoyens, délégué le problème de l'énergie à des structures qu'on supposait compétentes pour prendre les bonnes décisions. Et puis en matière d'électricité, on ne s'est jamais trop posé la question, à vrai dire. On a toujours eu des prises d'électricité chez soi. Ça a l'air propre. Hein. Quand vous branchez une lampe, ça marche. Ça dégouline pas de je ne sais pas quoi. Donc ça a l'air bon. Puis ce qui se passe derrière, ma foi, c'est le domaine de spécialistes. Et puis on ne le voit pas trop. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Et puis on va dire que les consciences commencent à un petit peu évoluer dans ce sens-là. Les problèmes, bien sûr, de changement climatique, les problèmes de raréfaction des ressources fossiles, les problèmes d'énergie fossile, enfin du nucléaire en particulier, dont on parle malheureusement beaucoup, mais heureusement aussi d'un certain côté beaucoup en ce moment, font que on a estimé au niveau de ses membres fondateurs d'Enercop qu'il était peut-être temps de que le citoyen un petit peu se repose la question et se réapproprie en quelque sorte la question énergétique.
Est-ce que ça bouge tout ça? Parce qu'après toutes les années, est-ce que dans le mix énergétique français, il y a une évolution? Est-ce que les énergies renouvelables augmentent? Et quelles sont les perspectives? Est-ce que ce sera réglé ou en grande amélioration dans 20 ans?
Je vais vous décevoir. La proportion d'énergie renouvelable en France a eu tendance à baisser. Non pas que les moyens nouveaux d'énergie renouvelable n'aient pas augmenté en France, mais il se trouve que la consommation globale a augmenté elle-même et plus vite que la mise en production de moyens renouvelables. Ce qui veut dire qu'en termes de ratio, finalement, le ratio des énergies renouvelables a baissé depuis quelques années, d'où l'urgence effectivement de travailler ensemble pour voir comment changer un petit peu la donne.
Vous parliez nucléaire justement, il y a une triste actualité évidemment au sujet du nucléaire en ce moment. Est-ce que cette peut-être prise de conscience due aux catastrophes nucléaires a augmenté vos nombres de souscripteurs ou a fait en sorte que les gens, on a des petits échos dans le salon, parce que nous sommes en direct du salon Planète Durable, Porte de Versailles, nous le rappelons, donc il y a parfois des petites annonces micro. Oui, je disais, ce désastre nucléaire, est-ce que ça a eu un impact sur vos souscriptions?
Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, on a environ deux fois plus d'entrées de contrats qu'on en fait habituellement. On est plutôt à 250 contrats habituellement par mois. Le mois de mars dépasse les 500, il touche presque les 600. Mm-hmm. Donc, pour l'instant non, parce que si vous voulez, ça tombe à un moment où l'hiver se termine, l'été commence, et les consommations d'électricité sont donc moindres. Donc ça veut dire qu'on est capable de répondre aujourd'hui à cette demande nouvelle.
Mais cet hiver alors?
Mais exactement.
Enfin,
mais par contre, l'hiver prochain, et on est en train effectivement de faire ce qu'il faut pour que on puisse faire face à cette consommation supplémentaire qu'on aura l'hiver prochain. Donc on a ce souci-là.
Il y a une question économique aussi. Est-ce que l'énergie verte, vous considérez que c'est un marché parallèle au marché énergétique global? C'est une manière de faire de l'argent aussi peut-être ou
Écoutez, déjà dans le domaine de l'électricité, il faut regarder ce qui se passe en termes de résultats des structures qui sont fournisseurs d'électricité. La réglementation française actuelle, on pourrait rentrer dans le détail, mais c'est assez technique, fait en sorte que les fournisseurs d'électricité alternatifs perdent aujourd'hui beaucoup d'argent. Enercop fait un peu exception, puisque ça fait pour deux exercices consécutifs que nous sommes à l'équilibre. En France, il se trouve qu'on en est encore un petit peu, en quelque sorte, au milieu du guet par rapport à ce processus de verse d'électricité. Vous avez des avantages un petit peu particuliers qu'a conservé l'opérateur historique, et qui fait que les autres fournisseurs sont un petit peu, ont beaucoup de difficultés à tenir terminer leurs exercices.
C'est-à-dire que vous n'avez pas de subvention, vous fonctionnez, l'énergie que vous achetez, vous l'achetez de vos propres,
Si, si vous voulez, en deux mots, sans aller trop loin dans le détail, vous avez deux marchés d'électricité qui coexistent en France. Vous avez le marché régulé qui est réservé à EDF, et vous avez le marché dit dérégulé qui est ouvert à l'ensemble des fournisseurs, et EDF également d'ailleurs, qui opère sur les deux marchés. Mais des structures comme Enercop ne peuvent opérer que sur le marché dérégulé. Grosso modo, le marché dérégulé, il vaut deux fois plus cher en termes de coût d'énergie que le marché régulé. Et puis que font les fournisseurs d'électricité classiques? C'est qu'ils essaient de vendre au même prix qu'au marché régulé. Donc ils achètent deux fois plus cher et ils vendent au même prix. Donc évidemment, l'équation ne tient pas la route.
Ils perdent de l'argent.
Et donc du coup, ils perdent de l'argent.
Alors comment vous faites-vous pour équilibrer?
Voilà, alors nous, c'est très simple. Nous, on essaie d'être transparent dans la construction de nos tarifs. On dit, regardez à nos consommateurs, regardez combien on paye l'électricité de nos producteurs.
Ça, on peut le voir sur le site.
Oui, bien sûr. Combien on doit payer au réseau pour l'acheminement de l'électricité, bien sûr. C'est comme un tiers du prix, c'est pas négligeable. Mm-hmm. Combien la structure Enercop doit prendre pour vivre? Et puis on arrive à un prix de vente qui est ce qu'il est. Et le résultat, Et que, effectivement, on est, alors suivant les profils, parce que c'est pas tout à fait ça peut varier sur les profils, entre 20 et 30% plus cher que le tarif régulé. Mais là où c'est intéressant, c'est que même avec ce prix qui est donc quand même plus élevé, même si, on va dire, pour un ménage moyen français, c'est environ 10 euros de plus par mois en termes de surcoût. Hein. À la fois, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est pas complètement négligeable non plus.
Ça rentre dans une démarche personnelle du sociétaire.
Absolument, bien sûr.
De suivre Enercop et de...
Bien sûr, bien sûr. En même temps, ce qui est intéressant de noter, c'est que si on se compare à d'autres structures qui existent dans d'autres pays européens, par exemple en Belgique, où vous avez une structure qui s'appelle EcoPower, qui était créée avant Enercop, mais qui a plus de vécu, on va dire, mais qui s'est construit vraiment sur les mêmes bases, ils se sont retrouvés avec une grille tarifaire qui a environ comme la nôtre, on a un petit peu moins cher, mais enfin je dirais c'est à peu près le même ordre de grandeur. La seule différence, c'est nous, je vous le disais, on est entre 20 et 30% plus cher sur le marché français. Eux, ce sont les moins chers du réseau belge. Et nous, notre très clairement, c'est que demain, on prétend que nous serons les moins chers du marché français. Pourquoi ?
Parce que à terme.
À terme, bien sûr. Quand le marché sera, la réglementation sera suffisamment assainie, on va dire, comme c'est le cas en Belgique. L'ensemble des fournisseurs se trouveront un petit peu à l'égalité en termes d'approvisionnement, de coûts d'approvisionnement. Et là, nous, on jouera sur le fait qu'on est justement une coopérative, donc une structure légère. On ne fait pas de la publicité à la télé, on ne fait pas ni dans le métro à Paris. Hein.
Combien est-ce que vous avez d'abonnés au total ?
Alors aujourd'hui, je vous le disais, on arrive environ à 7600-7700 consommateurs dans le périmètre d'Enercoop. Je vous le disais tout à l'heure, on rentre environ 200-250 consommateurs par mois, un peu plus ces derniers temps pour les raisons que vous avez citées. Donc on va très certainement dépasser les 10 000 d'ici la fin de l'année.
Comment on fait pour s'inscrire ? Comment on fait pour devenir souscripteur Enercoop ?
Alors c'est extrêmement simple. Hein. Vous allez sur notre site www.enercoop.fr et vous pouvez souscrire en ligne très simplement.
Et qui fait les démarches ? C'est aussi compliqué que de changer de fournisseur d'accès à Internet par exemple ?
Non, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que vous... passer par notre site, que vous passez un contrat chez Enercoop, c'est Enercoop qui derrière prend le relais et fait l'ensemble des démarches pour résilier, pour votre résiliation avec l'ancien fournisseur. Donc vous n'avez même pas à prévenir votre ancien fournisseur.
Peu importe l'endroit où on habite. Ça peut être aussi bien à Paris, en plein milieu de la ville, qu'en pleine campagne.
Absolument, absolument.
Il n'y aura pas de coupure.
Et il n'y aura aucune coupure.
Très bien.
Merci Patrick Bem pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes donc directeur d'Enercoop, un fournisseur d'électricité verte. Merci aussi à Adrien Lepage de Marcel Green qui a animé ce débat.